appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. La Cour constitutionnelle enregistre depuis ce mardi 9 juillet les déclarations écrites des biens de membres du gouvernement. Il s'agit d'une obligation constitutionnelle à laquelle doivent se conformer tous les membres du gouvernement. Chaque nomination est sortie. Cet article est conforme à l'article 99. Cet exercice est conforme à l'article 99 de la Constitution qui stipule qu'avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le président de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leurs biens, parts sociales, obligations, autres valeurs, comptes en banque, immobilier, mobilier, y compris terrain, concession, forêt, plantation et mine, avec des indications des titres pertinents. La Cour constitutionnelle aura communiqué ces déclarations à l'administration fiscale. Faute de ces déclarations, dès 30 jours, la personne concernée est réputée démissionnaire. Et aussi, en cas de déclaration frauduleuse ou des soupçons d'enrichissement sans cause, dans les mêmes délais suivant la fin des fonctions, la Cour constitutionnelle ou la Cour de cassation est saisie. Selon le cas, comment commentez-vous cette actualité? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs pour aussi réagir en direct en composant les 099-716-80-79. Billy Landry-Bettou est à la mise en nom de ce magazine réalisé et coordonné par Julie Feza Bongonda et Blaise Chindani. À la présentation, c'est Marcel Gomomba. À toutes et à tous, elles sont en condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Merci, comme chaque fois, d'être nombreux à avoir réagi sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Merci également de vous être inscrit pour réagir en direct. Si vous êtes intéressé, je rappelle le numéro d'appel, c'est 099-706-80-79. Et pour commenter ce sujet sur la déclaration du patrimoine de membres du gouvernement, nous avons en ligne Maître Rifan Louko. Bonjour Maître Rifan Louko.
Bonjour, bonjour à tous.
Voilà, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete. Vous êtes aussi doyen de l'ordre des avocats de l'Ituri, chercheur à l'université de Kinshasa et auteur de plusieurs publications en droit congolais. Avec vous, on va échanger avec les auditeurs par rapport à ces sujets sur la déclaration écrite des biens des membres du gouvernement. Et on l'a vu après le Premier ministre et son temps, Jean-Michel Samalou Kondé, c'était au tour de la Premier ministre en 30, Judith Souminois, d'y déposer la liste de son patrimoine au greffe de la Cour. D'entrée des jeux, Maître Rifan Louko, et comment interprétez-vous cet exercice constitutionnel qui veut que les membres du gouvernement, à leur entrée et à leur sortie, puissent déclarer leur patrimoine à la Cour constitutionnelle?
Merci pour ce thème que vous avez retenu pour nos auditeurs et pour nous tous. C'est un thème fondamental, comme vous pouvez le remarquer, parce qu'il concerne les dirigeants principaux du pouvoir public, donc les animateurs principaux du pouvoir public. Les constituants ont voulu que ceux-là, avant d'entrer en fonction ou avant, n'est-ce pas, l'exercice de leur fonction, de leur charge publique, eh bien, qui puisse déclarer. C'est donc une obligation constitutionnelle. Ce n'est même pas une loi, c'est la mère des lois qui l'a posée, que ce soit et qui donne l'exemple. Parce qu'évidemment, État, les dirigeants des grandes responsabilités, ils doivent donner l'exemple. Hélas, le constat est là, c'est que dans notre pays, la population facilement peut suivre les règles, mais ceux qui ont de la peine à donner l'exemple sont les grands dirigeants. Ceux qui ont de la peine à donner l'exemple, ce sont les grands dirigeants. Et vous voyez, depuis que cette constitution a été adoptée en 2006 jusqu'à maintenant, la partie B de cette disposition n'a presque jamais été respectée. Ça veut dire, déjà, pour la sortie, ils sont rares ceux qui déclarent, mais pour la partie B, ça veut dire, pour l'entrée, ceux qui sont rares ceux qui déclarent, mais pour la partie B qui est la sortie, le gouvernement qui est parti, si personne n'a déclaré, c'est qu'il vient d'accumuler après son mandat. Et voilà, donc nous sommes encore en train de se battre. La constitution 2006, aujourd'hui nous sommes en 2024. Aucun débit d'exécution de respect de cette disposition obligation constitutionnelle, parce que c'est tout simplement, il s'agit des grands dirigeants qui, eux, sont les premiers à ne pas respecter nos lois. Et ce sont eux les premiers à négocier nos lois. C'est-à-dire, ils négocient l'application de nos lois. Et c'est le petit peuple qui, lui, doit respecter absolument nos règles. Et les sommets ne peuvent pas respecter nos règles. Et c'est ça la difficulté. Et c'est le défi pour la société civile et toute la population congolaise que les dirigeants, cette histoire-là de pourriture du poisson par la tête, il faut que ça commence donc, que l'exemple soit donné par la tête. Et c'est important donc, nous avons tous suivi que madame la première ministre a fait cette obligation, mais ils sont combien les ministres? Parce qu'en principe, lorsqu'il le fait, ça doit être lui ou elle, comme c'est une dame, avec tout son gouvernement qui le suit. En principe, lorsqu'il le fait, c'est comme ils sont partis au Parlement, ils étaient tous au Parlement pour présenter et défendre leur budget. Et en ce qui concerne la déclaration des revenus mondiaux, elle ne devait pas être seule, ça devait être avec tous ses ministres. Donc ça devait être de la même façon qu'ils l'ont fait au Parlement, devant le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, eh bien, ils devaient être tous ensemble. Elle ne devait pas accepter qu'il y ait quelqu'un qui soit en reste. Et cela, c'est une obligation autant pour le dirigeant des institutions au Parlement, Sénat et consorts, et cela également vrai pour les ministres et tout. Donc c'est ça la difficulté. Donc dans une entrée de cette émission, voilà les constats. Depuis 2006, nous avons de la peine à voir les ministres déclarer les revenus à l'entrée, parce que l'enrichissement est scandaleux. Je peux vous citer les différents ministres, premiers ministres qui se sont enrichis scandaleusement, parce que tout simplement, ils ont marché sur ces dispositions constitutionnelles. Et maintenant, il y a un premier ministre dont nous avons déjà cité son nom ici, on ne le cite pas aujourd'hui, qui a le commission parlementaire avait constaté qu'il avait accumulé 54 villas dans la seule ville de Kinshasa. 54, sans parler des immeubles. Alors vous imaginez donc, pendant le mandat d'un premier ministre, donc, vous avez accumulé autant pour toi-même, mais combien avez-vous construit pour la République et pour les provinces et pour les écoles, pour les hôpitaux, pour l'armée, pour la police? Rien du tout. Ce n'était que s'enrichir. Donc ça doit s'arrêter, ces choses-là. C'est le combat que nous menons. Ça fait une vingtaine d'années dans cette lutte de la société civile. Hélas, nous ne sommes pas encore arrivés et le combat continue. Et lorsque Radio Okapi programme ses heures d'émission, c'est pour que tous nous nous réveillons que l'accumulation de ces millions déjà qui volent chaque jour, c'est ce qui entraîne et aggrave la pauvreté de la population, parce que l'argent qui est chargé de financer les hôpitaux, de financer les écoles et la gratuité est détourné systématiquement. Ce n'est plus en centaines de milliers, maintenant c'est en centaines de millions et dans l'unité totale.
Alors, Maître Rifat Louko, vous l'avez dit, le Premier ministre sortant, Jean-Michel Sama Lukonde, a prêché par l'exemple. Il a déclaré son patrimoine, donc à la sortie du gouvernement. Et la Première ministre entrante, Judith Suminwa Tuluka, a déjà aussi prêché par l'exemple. Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant est-ce que... on doit encore, on peut dire ça, pour les membres du gouvernement, et ça doit se passer de quelle façon? Est-ce que c'est la Cour constitutionnelle qui doit mettre pression sur les autres membres du gouvernement, ou c'est à eux de se conformer à cette obligation constitutionnelle et de le faire le plus rapidement possible?
Je crois que maintenant, il faut que la procédure soit enclenchée, parce que là, nous sommes dormants. Il faut que les greffes de la Cour constitutionnelle puissent décerner des sommations au ministre. Il faut qu'il y ait des sommations maintenant. Parce qu'évidemment, la loi dit que ces déclarations-là sont déposées au greffe de la Cour de cassation, de la Cour concernée d'abord, qui les transmet à l'administration fiscale. Donc, l'administration fiscale et éventuellement à l'inspection générale des finances. Il faut que donc ces administrations-là, parce que ce sont eux qui vont tirer la conséquence des enrichissements, des détournements et consorts. Parce qu'évidemment, on saura comment il a détourné. Lorsqu'il est entré et il avait 5 maisons, et il en sort, il en a 18, il en a 80, il en a 60. Donc ça veut dire qu'on constatera que ces salaires-là, de la fonction qu'il occupait, ne pouvait pas lui payer tout ça. Les restes, c'est de la corruption, du détournement, de l'argent qu'il était en train de gérer. Donc voilà. Alors, comment ça va se passer s'il n'y a pas de sommation? Il faut donc que l'administration du greffe de la Cour constitutionnelle puisse commencer à faire des sommations à déclaration. Il faut qu'on imagine ça. Et je crois que s'il m'écoute maintenant, l'exploit des sommations à déclaration de revenus. Il faut vraiment que une semaine après l'entrée en fonction, sommation à déclaration de revenus, et la même sommation là sera également décernée une semaine après la fin de mandat. Sommation à déclaration de revenus. Donc, à l'entrée, si vous ne l'avez pas fait spontanément, on vous somme.
et à la sortie, si vous ne l'avez pas également fait spontanément, on vous somme. Et on doit s'assurer que les copies de toutes ces déclarations-là, que non, j'ai entré, j'ai 4 maisons, j'ai 5 maisons, j'ai 5 voitures, soient également déposées. On doit s'assurer que l'administration fiscale, qui est la DGI, la DGRAD, n'est-ce pas, on restitue ces déclarations-là pour vérifier avec le cadastre que la personne a effectivement ces maisons-là et qu'à la sortie, et ce qu'il a déclaré qu'il a accumulé à la sortie, c'est effectivement vrai et vérifié par les conservateurs des titres immobiliers du ressort du territoire national, donc ça veut dire dans la coopération des administrateurs fiscales ou immobilières, on peut savoir combien de maisons, parce que c'est souvent l'enrichissement se matérialise dans l'immobilier et dans les comptes en banque, c'est facile. Donc l'administration fiscale a tout le moyen, il a tout le bras, il a tout le pied et les doigts à mettre partout pour savoir qui s'est enrichi scandaleusement pour que le surplus de l'enrichissement eh bien, puisse être ramené au trésor public, aux écoles de l'État, aux bâtiments public qui, des résidences, nous en manquons, on a tout vendu et qu'on puisse les récupérer au travers de tous ces responsables qui ne sont nommés uniquement que pour s'enrichir et jamais pour servir.
Et maître Rifa, est-ce que vous êtes du même avis que ceux qui pensent que cette obligation constitutionnelle, en tout cas pour les membres du gouvernement, de déclarer leur patrimoine à l'entrée et à la sortie de leur fonction, c'est permet de lutter contre l'enrichissement illicite ou encore sans cause ou encore la corruption?
Oui, mais évidemment, on appelle ça en latin, c'est la ratio legis. Donc, c'est la motivation de cette obligation. Donc, ce qui a justifié que l'on puisse intégrer dans la Constitution cette obligation, c'est principalement ce que vous pouvez résumer là. Ça veut dire la lutte contre l'enrichissement. Regardez, toutes les maisons, les résidences officielles en province et à capitale ont été vendues par des responsables publics. Donc ça veut dire que nous n'avons plus de résidences en province. Donc là où nous avions 60 maisons pour l'État, 60 maisons pour loger les responsables provinciaux ou les responsables nationaux, eh bien il n'en reste que 2 ou 3 sur 60. Là où il y avait 120, il n'en reste que 5. Donc tout ça se trouve entre les mains de qui? Entre les mains des responsables, des politiciens d'hier et d'aujourd'hui. Alors, pourquoi cela? Pourquoi? Parce que on ne le suit plus, on ne le suit pas, on ne contrôle pas en ce qui concerne l'entrée, pour qu'on sache. Maintenant, tu étais ministre hier, tu as maintenant combien aujourd'hui des maisons ou des comptes en banque? Et lorsque tu sors des mains, tu en as combien? Par exemple, dans le gouvernement actuel, il y a des ministres qui sont là. Ça fait 5 premiers ministres les ont reconduits. On parle d'entre 3 et 5 premiers ministres ont reconduit ces personnes-là. Et ils sont encore au gouvernement. Cela doit être surveillé particulièrement parce que leur pérennisation au gouvernement, ça cache quelque chose. Leur pérennisation au gouvernement. Et lorsque vous veillez, vous demandez, il a fait 15 ans ministre, il a fait 20 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pour la République, mon Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait pour le secteur? Vous voyez que non, c'est l'amusement, c'est l'enrichissement. Donc ça veut dire, il faut que ça cesse, ces mandats qu'on exerce sans réalisation pour la collectivité nationale. Il faut que ça cesse. Ça veut dire, c'est pourquoi à l'époque, nous avions proposé avec le ministre Luzolo à l'époque, qu'il y ait de ce qu'on appelle les assignations, qu'un ministre puisse avoir des assignations. C'est-à-dire, une sorte de conducteur, vous avez 5 ans comme procureur général, vous avez 5 ans comme ministre, voici ce que vous devez réaliser. Voici ce que vous devez. C'est une sorte de cahier de charges, un conducteur pour... Tant qu'on les laisse faire ce qui leur passe par la tête, nous ferons encore 50 ans et nous n'aurons pas les écoles. Il y a les 150 territoires, les prisons, nous n'en avons plus et nous n'en aurons toujours pas parce que tout simplement, les détournements et les corruptions continuent.
Voilà, M. Rifa Louko, on revient à vous. Le temps pour nous de nous tourner vers le standard. Il y a déjà des auditeurs qui aimeraient intervenir. Nous avons Jérémy Mamba qui nous appelle depuis Lubumbashi. Également, Guy Kambouyi qui est à Kananga. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de la déclaration du patrimoine pour les membres du gouvernement à l'entrée comme à la sortie. Si vous voulez intervenir, vous pouvez nous appeler au 099-716-80-79.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Avant d'accorder la parole aux auditeurs qui voudraient bien intervenir, je l'ai dit, nous avons Jérémy Mamba qui appelle depuis le Lubumbashi et Guy Kambui qui est à Kananga. Je m'en vais lire une deux réactions sur la page Facebook par aux auditeurs. Il y a celle de Christian Toili qui nous écrit depuis Bouniani Touré. Faire la déclaration officielle, c'est bien. Malheureusement, la réalité sur le terrain prouve qu'il s'agit d'une simple formalité administrative sans répercussion. Les combles est que tout au long de l'exercice de leur mandat, les membres du gouvernement s'enrichissent illicitement à travers les détournements, vols et pillage du denier public, tandis que la même cour fait sourde oreille comme si tout était normal. Nous voulons voir des actions concrètes suivre ces simples gestes de déclaration et qu'à la sortie, il y a un nouveau contrôle pour nous assurer que les biens dont disposent les membres du gouvernement sortant ont été également dûment acquis. Voilà, c'est Christian Toilou qui nous écrit depuis Bouniani Touré. Notre action, c'est Jackson Lee Kongola depuis Kisangani. Cette obligation constitutionnelle est juste une pure distraction. Nous n'avons jamais vu la saisie de biens d'un ministre lorsqu'il a commis une infraction ou soit s'il a commis un cas de détournement des biens publics. Donc, que la Cour ne puisse pas nous distraire car la politique en RDC prime sur la justice. Voilà, vous avez été nombreux à réagir sur la page Facebook par les auditeurs. On va à lire encore d'autres réactions, je pense bien avant la fin de ce magazine. On se tourne vers le standard. Nous avons Jérémy Mamba qui nous appelle depuis Lubumbashi. Bonjour Jérémy Mamba.
Oui, bonjour Monsieur Marcel. Bonjour également à l'invité. Je pense que l'article 99 de notre Constitution, qui est d'ailleurs la boussole, est très clair là-dessus au sujet, n'est-ce pas, de la déclaration de patrimoine des gouvernants. Cependant, la tâche n'est pas si aisée, dans la mesure où les masses sommes d'argent qu'amassent la plupart des politiques congolais sont casées dans des banques étrangères. D'où cette déclaration tient sa route dans la forme et non dans les fonds. Et surtout, notre pays, vous savez, et fait face à plusieurs maux qui les rongent, notamment la traçabilité, la bonne gouvernance, ainsi que l'enrichissement illicite. Donc, il vaut mieux. Nous avons déjà d'ailleurs vécu dans ces pays où on voit des gens traverser le fleuve avec, n'est-ce pas, des valises, des grandes sommes d'argent. Alors ça peut échapper à la clairvoyance, n'est-ce pas, des entités engagé dans la procédure. Ici, je vois les greffes de la Cour de cassation et qui a la charge, n'est-ce pas, de recevoir en première avant les transferts, n'est-ce pas, vers l'administration fiscale qui est d'ailleurs détentrice d'un rôle déterminant. Alors ici, je pense que cet exercice vaut son pesant d'or, certes. Cependant, les dessous de la tasse en dit quand même très long. Alors je me dis, étant donné que ces dirigeants qui gouvernent sont redevables vis-à-vis de la population, parce que vous savez, c'est l'État congolais qui est, n'est-ce pas, les contribuables potentiels et providentiels. Alors, je préfère que cet exercice soit quand même médiatisé parce que la population est là, parce que c'est elle, n'est-ce pas, qui est en première comme étant les contribuables, de pouvoir connaître d'abord d'où viennent les biens des dirigeants ou des gouvernants et comment évoluent-ils pendant, donc, c'est-à-dire lors de l'exercice de leur mandat. Et d'où ces personnalités étant au service de la population, moi je pense qu'elle doit nécessairement répondre aux exigences parce que vous savez, notre pays a besoin de voir les choses au clair parce que la construction ou le développement de notre pays, peut-être c'est pour certaines choses qui nous échappent parce que vous savez, il y a même des personnes, une personne à elle seule qui marche avec 57 kilomètres de route parce que vous savez, quand quelqu'un détourne plus de 50 millions, vous savez, c'est autant de kilomètres que quelqu'un marche dans ses propres poches et tout ça, c'est donc, c'est-à-dire, c'est l'État congolais qui est, les peuples congolais qui constituent les plus grands perdants. Parce que vous savez, les chefs de l'État ne cessaient peut-être de les dire tout le temps avec les vocabulaires tels que le peuple d'abord, l'État des droits. Maintenant, c'est le moment où nous devons voir ceux-là qui nous gouvernent. Comment est-ce qu'ils gèrent les choses de l'État? Et lorsque on lit, on déclare, il faut réellement qu'on voie réellement les choses au clair. Moi, je préférais qu'il y ait d'autres structures, telles que d'appui, qui sont là pour lutter contre la corruption, de pouvoir s'interférer, pour pouvoir suivre pas à pas qui a fait quoi, qui a amassé quoi, et comment est-ce qu'il quitte l'étape de en tant que dirigeant. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de sommes d'argent et de grandes sommes d'argent qui échappent au contrôle, n'est-ce pas, et à la prévoyance de ceux-là qui sont censés suivre la procédure. Et tout ça, nous devons voir au clair. Ça veut dire que pas faire ce qu'on fait dans les formalismes et à l'intérieur, il y a, parce qu'on a toujours entendu, après un certain moment, on dit on a gelé les avoirs d'une personne X ou Y. Ce qui veut dire qu'il y a des grandes sommes au détriment. Donc, c'est-à-dire, tout ce que nous voyons, les biens immobiliers et immobiliers, c'est peut-être dans la forme que nous voyons. Mais quand vous regardez les grandes sommes qui sont gardées à l'étranger, ça échappe à la traçabilité et au contrôle de l'État. Donc,
C'est là que l'État devrait voir, parce que toutes ces sommes pouvaient contribuer à la construction et au développement de notre pays, qui malheureusement sont entre les mains des individus qui les gèrent.
Donc pour vous, Jérémy Mwamba, pour vous, il ne faut pas que ça soit seulement une formalité, hein, comme l'a dit un de internautes qui a réagi sur la page Facebook par aux auditeurs. Il ne faut pas seulement que ça soit une formalité, mais il faut absolument que vous l'avez dit que dans les fonds, que cet exercice constitutionnel pour les membres du gouvernement puisse se faire de manière à ce que tout se passe normalement selon la loi, c'est-à-dire ceux qui sont à l'entrée, les membres du gouvernement doivent déclarer leur patrimoine et également la sortie doit le faire, et à ce moment-là il faut vérifier ce qu'ils ont eu, ce qu'ils avaient présenté comme patrimoine avant l'entrée et ce qu'ils ont présenté après, et voir dans quelle mesure ils ont pu s'enrichir. Oui.
Il y a un petit point que je voudrais ajouter là.
Oui.
Vous savez, aujourd'hui nous sommes dans un pays où papa est député, maman est soit ministre, les enfants sont à ce niveau-là. Mais lorsqu'il s'agit de présenter les données, lorsqu'il s'agit de patrimoine, mais je pense que l'État ne saura pas, n'est-ce pas, cibler toutes ces personnes à une seule séquence. On verra soit le papa qui est là, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de sommes d'argent qui échappent au contrôle de l'État. C'est pourquoi notre pays descend aux enfers. Et nous ne savons pas connaître le développement, parce que nous sommes en train de perdre. Il y a des kilomètres de routes.
Voilà, merci Jérémy Mwamba. Ça, vous l'avez déjà dit. Ça, vous l'avez déjà dit. On ne va pas le répéter. Merci Jérémy Mwamba d'avoir appelé depuis Lubumbashi. Guy Kambouy, vous êtes à Kananga. Bonjour Guy Kambouy. Guy Kambouy, voilà.
Bonjour les journalistes.
On vous écoute, vous avez la parole.
Merci de la parole. Avant de réagir, je tiens à saluer l'invité, vous-même ainsi que tous les auditeurs de la radio Okapi. Bon, cette déclaration faite par les membres du gouvernement, nous saluons. D'abord, le fait pour eux de se conformer à cette disposition constitutionnelle, article
899.
Qui voudraient que, avant d'entrer en fonction, qu'ils déclarent leur patrimoine, tout ça. Mais moi aussi, même au niveau provincial, j'ai déjà vécu ce cas-là, et tous les gouvernements qui se sont succédés ici au Conseil central, et même au niveau national. En entrant, ils peuvent se conformer à cette disposition. Et, mais en sortant, quand ils ont fini, ils ont rendu service à la République, le mandat a pris fin, on ne sait pas le solde réservé à tous ces officiels. Vous voyez un peu la conséquence. Cette disposition se semble être ambiguë ou floue, parce qu'il déclare que bien, mais à la sortie, quelle est la suite réservée même aux institutions financières, la DGI et consorts? Ils ont fait déclarer, moi, une fois, je suis allé déposer cette déclaration-là à la DGI, mais quelle est la suite? Parce qu'ils sont des hommes forts, aujourd'hui, il est gouverneur, demain, il est député national. C'est ça le problème. Nous avons des lois dans ce pays, des lois qui voudraient qu'il y ait changement ou qu'il y ait interprétation par la même Cour constitutionnelle. Mais c'est difficile parce que ceux qui votent des lois, ce sont eux-mêmes là qui sont victimes, qui sont avantagés par ces lois. Vous déclarez, mais la suite n'est pas réservée. Il s'enrichit, il s'en en cause et puis il va aller en Europe, c'est là où ces histoires sont gérées, les lois les protègent. Donc moi, mon souci est que notre Cour constitutionnelle ne peut pas être là que pour proclamer les députés, le résultat ambigu, tout ça. Mais il y a aussi des questions cruciales comme cette question de cette loi ici. Quand on déclare, quelle est la suite? Dans ce pays, on n'a jamais déclaré quelqu'un, il a eu déjà, il s'est enrichi illicitement. Aucun ministre, tous sont bons, tous gèrent bien, tous sont vraiment conformes. Donc c'est ce que nous regrettons. Moi, je voudrais que si réellement le chef de l'État veut prôner l'état de droit comme nous l'attendons dans la bouche, mais dans la pratique, il n'y en a pas, on puisse interpréter de telles dispositions, on puisse réserver des sanctions. Donc après avoir terminé le mandat, on contrôle qu'est-ce qu'il a eu et comment il a eu. Donc ça, c'est entre en ligne de compte, monsieur
voilà,
le ministre.
Merci.
Voilà quelques mots ce que je pouvais un peu dire.
Voilà, merci à Guy Kambouy depuis Kananga. Franck, vous appelez depuis Vienne en Autriche. Bonjour Franck.
Oui, bonjour à vous tous au studio, mon cher Marcel. Bonjour à tous les amis de la radio Capi et aussi à l'invité Maître Rufin Loco qui est avec nous en ligne aujourd'hui.
On vous écoute, Franck.
Oui, merci beaucoup. Je crois que nous suivons tous l'actualité de notre pays. Si nous devons seulement nous conformer à la nature de l'acte, à cette intention, c'est juste protocolaire, c'est peut-être fait de manière pédagogique pour juste chercher à prêcher par un bon exemple. Donc on peut jusque là louer. Mais le plus grand problème, c'est de savoir la suite. Avant de recevoir votre appel, là, j'étais en train de voir encore sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Curieusement, je me rends compte que la plupart de ceux qui ont émis leur point de vue abordent la question vers la même direction. C'est bien de déclarer, mais la suite, ça serait comment? Je crois que l'invité du jour a déjà donné tous les détails très nécessaires. Mais moi, personnellement, s'il faut arriver à faire juste une suggestion pratique, je pourrais demander que, par exemple, quand on commence à préparer les élections, qu'au niveau des partis politiques, s'ils savent déjà qu'ils vont aligner autant de candidats, que chacun de ces candidats se soumette déjà à cette exigence en ce moment-là. Parce que, en ce moment-là, ça serait peut-être encore authentique. Nous savons déjà que si quelqu'un est déjà nommé ministre, il entre au gouvernement, il est déjà au gouvernement. Donc nous sommes Congolais, nous savons comment les choses se passent chez nous. On peut déclarer, mais encore faut-il que toutes ces déclarations-là soient authentiques et vraies. Puis il manque du suivi, il manque beaucoup de mécanismes de contrôle. Et personnellement, je trouve que notre justice est confrontée à beaucoup de défis. C'est pas seulement le fait de dire que tel est passé, déclaré, tel a fait ceci, que nous pouvons nous mettre à dormir en faisant confiance naïvement. Donc, nous avons encore un combat, nous avons encore beaucoup de choses à faire et notre justice, ceux qui sont là, savent bien qu'ils ont encore beaucoup de défis à relever et ils ne peuvent pas seulement s'arrêter à un aspect. Donc, c'est bien ce qui s'est fait, mais la suite, est-ce qu'on a placé tous les mécanismes de contrôle pour veiller à ce que qu'on stoppe les détournements, qu'on stoppe les corruptions, qu'on stoppe les interférences politiciennes, tous ces problèmes, tous ces fléaux qui ne font qu'affecter négativement le fonctionnement de notre appareil judiciaire. Et si, par exemple, le Premier ministre ou Madame la Première ministre va se présenter seule, où sont les autres membres de son gouvernement? On ferait de même avec les présidents de l'Assemblée, les présidents du Sénat et tous les membres de leur chambre parlementaire. Mais si ceux-là même qui doivent le faire ne le font pas, ça rime déjà quoi? C'est peut-être bien, mais est-ce que c'est tout? Je préfère m'arrêter là.
Donc, encore pour vous, Franck, il ne faut pas que ce soit une formalité. Il faut mettre tous les mécanismes en place de manière à ce que, une fois que ces patrimoines sont déclarés à l'entrée des fonctions du membre du gouvernement et à la sortie, qu'on puisse réellement se rendre compte que il y a ceux qui se sont enrichis dûment, c'est-à-dire que par rapport à leurs fonctions, et ceux pour qui on estime qu'il y a eu peut-être des éléments d'un enrichissement illicite, ils doivent être poursuivis, c'est ça?
Mais tout à fait. Tout à fait, mon ami Marcel, tout à fait. Parce que, mais quand on ne contrôle pas, c'est comme ça que la politique devient l'unique industrie, l'unique machine qui crée des millionnaires en une semaine. Mais comment vous pouvez comprendre que quelqu'un qui, avant d'entrer au gouvernement, n'avait pas, par exemple, plus de 4 maisons, subitement, après une année, il en a 12, il en a 15? On peut encore se demander, il a quel salaire, mais quand bien même il peut se défendre par rapport à son salaire. Mais ce sont justement l'existence de toutes ces injustices-là que nous devons combattre. Donc, le pays appartient à tout le monde, les biens du pays devaient être répartis convenablement à tout le monde afin de permettre à chacun des citoyens de bien vivre. Mais si on doit seulement voir une seule catégorie de personnes s'enrichir illicitement dans un bref délai, mais ça donne là quelle leçon aux autres. C'est comme ça que les uns et les autres se bousculent pour avoir accès à l'exécutif ou au parlement parce qu'ils savent que c'est là où ils vont aller s'enrichir. Et je crois que nous devons demander à notre justice de bien faire le travail. C'est bien de nous dire maintenant qu'elle a déclaré. Mais la suite, ça sera comment? Voilà. Il y a combien de ministres qui viennent de quitter le gouvernement et combien se sont encore soumis à cet exercice-là? Ça aurait été mieux de nous dire qu'à part le premier ministre qui venait de le faire, il y a aussi tel qu'il a fait. Mais pourquoi on le fait, on le médiatise pour un citoyen et pour les autres, on ne peut pas le faire. Puis la liste qu'ils vont déposer là, la liste à déclarer, devait être connue. Dans certains pays, on sait que tel est devenu ministre, il a ceci avant l'entrée en fonction, il avait ça, après il a ajouté ceci. On peut faire la moyenne de ses économies, on se rend compte qu'avec son salaire, il peut se le permettre. Mais quand on voit quelqu'un qui part de nulle part, il était locataire, il devient ministre et une année après, il se retrouve avec 30-40 maisons. Des villas. Est-ce qu'on ne peut même pas vraiment chercher à comprendre la source de provenance de tout ce qu'il a acquis là, en un moment?
Voilà. Merci Franck d'avoir réagi depuis Vienne. On revient ici au pays, précisément à Kinshasa, pour retrouver Obed. Bonjour Obed.
Et bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs des Radio Capi. Je salue mon ami Franck de Vienne qui vient d'intervenir.
On vous écoute.
Oui, en tout cas, Monsieur Marcel, moi je pense que les sujets aujourd'hui nous poussent quand même à étendre nos pensées, nos points de vue au regard des réalités qui se passent dans notre pays. Parce que il arrive de moments où on se dit parfois que bon, sur le plan de l'architecture juridique de notre pays ou de l'arsenal, si vous voulez, les textes ne posent pas problème, mais c'est vraiment l'application. Parce que vous avez là l'article 99 qui a prévu, en tout cas cet exercice, c'est justement les constituants a voulu tout simplement éviter à ce qu'il y ait pas, en tout cas, si vous voulez, enrichissement illicite de la part des membres de l'exécutif ou, si vous voulez, des gouvernants de manière beaucoup tout court. Mais là, tout en maîtrisant aussi la pusillanimité de nos hommes politiques, et de la manière dont fonctionne notre justice, cela nous pousse tout simplement à croire qu'il s'agit bien là d'une formalité, comme l'a dit Franck Edelienne. Aujourd'hui, pas parce que M. Marcel, on soupçonnerait, même si je ne vais pas citer les noms, on soupçonnerait même que d'autres membres du gouvernement Samalou Kondé n'auraient pas déposé, se rendre à la Cour constitutionnelle, comme le veut si bien la Constitution, se rendre à la Cour constitutionnelle à la fin de leur mandat pour présenter leur patrimoine, tout ce qu'ils possèdent après avoir en tout cas servi la République. Mais ça pose un sérieux problème. Donc, moi je pense qu'à ce niveau, il y a encore un problème. C'est bien beau de parler, mais nous devons quand même être très exigeants envers nos autorités, envers la justice congolaise. Parce que, vous savez, si dans un pays vous avez une justice malade, c'est très compliqué de voir, en tout cas, beaucoup de choses évoluer à bon trait. Donc, aujourd'hui, nous pensons qu'à travers nos réactions, quand même, le message va passer et le message va arriver, en tout cas, à la cible pour qu'il y ait changement en quelque sorte de manière. Parce que ce qu'on voit dans ces pays, c'est frustrant. Comment nous pouvons chercher le développement dans un pays où les millions sont volatilisés comme si on volatiliserait, je ne sais pas, des grains de maïs? C'est très compliqué et je pense que cela doit être une véritable interpellation à la fois pour ceux qui servent la République, à la fois pour ceux qui sont appelés à dire la droit, la justice.
Voilà, merci Obed depuis Kinshasa. Avant de retrouver notre invité, Maître Rifan Louko, pour réagir à toutes ces interventions, une autre réaction que je m'en vais lire sur la page Facebook par aux auditeurs, c'est celle de Georges Kilangalanga depuis Kisangani. Nous saluons le geste de ces deux personnalités qui se sont conformées aux prescrits de la Constitution du pays par ailleurs. Il allait de se demander sur la pertinence de cette disposition constitutionnelle au regard des pratiques que nous observons. Est-ce que toutes les déclarations qui sont faites sont-elles vraies? Cette disposition constitutionnelle résout quel problème? Cela reste une simple formalité qui d'ailleurs n'est pas respectée par plusieurs politiciens et n'apporte rien contre l'enrichissement illicite de politiciens. Tant que la justice ne jouera pas son rôle de sanction contre les détournements, peu importe les dispositions légales, leurs effets seront attendus en vain. Voilà, c'est Georges Kilangalanga qui a réagi depuis Kisangani sur la page Facebook par les auditeurs. Maître Rifan, vous avez suivi les uns et les autres par rapport à leurs interventions. Qu'est-ce que vous en dites?
Non, t'as dit, j'ai suivi attentivement tous nos intervenants pour vous dire combien ce sujet concerne la population congolaise, le peuple congolais qui est en train de souffrir de tout cet avalanche et cette hémorragie de détournement qui a mis moins de centaines à des milliers de dollars américains. Donc, dans les chefs de tous ces détourneurs et corrompus. Alors, je vais vous donner en réaction à tout ça, je vais vous donner une anecdote qui vient de l'Obéma et qui manifeste que ce phénomène ou ce fléau a plus de 3-4 décennies dans notre pays.
Nous sommes là dans les années. Vous parlez de l'Obéma, office de Biamalaki, c'est ça?
L'Obéma, l'office de Biamalaki, avec ce qu'on appelait l'empire immobilier d'un certain premier commissaire d'État, je ne cite pas les noms.
Oui.
C'est-à-dire, nous sommes là dans les années 80, où lorsque l'ajustement structurel a été ordonné par le FMI, il y a un premier commissaire d'État qui avait ordonné à tout le monde de serrer la ceinture. Serrer, vous vous rappelez, serrer la ceinture. Et lorsqu'il avait obligé tout le monde à serrer la ceinture, c'est à l'époque où il avait supprimé les 3B que nous, les étudiants, on appelait les 3B. Ça veut dire la bouffe, c'est-à-dire la nourriture des étudiants, donc l'alimentation, la nourriture des étudiants, les 3B, les 10, et les 3B, la bourse. Donc la bourse a été supprimée par ces premiers commissaires d'État-là. On ne l'oubliera là, jamais, nous, les anciens étudiants. Et c'est à cette période-là où c'est la rigueur contre tout le monde. Et vous savez, l'ironie du sort, et c'est ça l'anecdote qui vient de l'Obéma, l'ironie du sort, c'est que 7 ans après serrer les ceintures à tout le monde, il y a eu un immeuble pas neuf et VIP sur le boulevard du 30 juin qu'on a appelé, et vous vous rappelez vous, les anciens, l'immeuble de la rigueur. L'immeuble de la rigueur, c'est comme ça que la population a, c'était l'immeuble qui portait le nom de cet ancien premier commissaire d'État. Et à l'Obéma, lorsque Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir, qu'est-ce qu'on va découvrir à lui seul? Donc la rigueur qu'il venait d'imposer à tous les peuples congolais, on appelait ça à l'Obéma l'empire immobilier du nom de ce monsieur-là, je ne cite pas son nom. Empire immobilier, il avait accumulé dans moins de 7 ans 120 maisons à Kinshasa. 120 maisons VIP à Kinshasa. Dans la seule ville de Kinshasa, 120 maisons, on appelait ça l'empire immobilier. Et pour que le ministre de la Justice, dès l'époque, puisse lui restituer les maisons-là, on avait parlé à l'Obéma qu'il avait restitué 10 maisons. Pour qu'on lui restitue dans la corruption son empire immobilier, il aurait donné à l'époque 10 maisons au ministre de la Justice de l'époque. Donc ça, voilà là où nous en sommes, qu'on impose la misère à tout le monde, et de revers la médaille, c'est lui qui impose la misère à tout le monde. Et c'est souvent le membre du gouvernement ou le chef du gouvernement, quelques jours après, on apprend que lui, il a 120 maisons, il a 50 maisons, et c'est le cas le plus récent de premier ministre qui, après Laurent Désiré Kabila, a accumulé dans moins de 5 à 54 maisons. C'est une histoire que nous avons déjà dénoncée sur ces antennes. Donc, pour dire tout simplement en conclusion, que si les services apparentés, ça veut dire la DGI, qui représente le fisc et l'administration fiscale congolaise, l'inspection des finances, général des finances, je vois que ces services-là, tous sont en train de se réveiller, et la Cour des comptes, qui ne prennent pas les conséquences. Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement que ça soit cette étape-là de déclarer les revenus à l'entrée et à la sortie, mais que l'administration consommatrice que je vais citer là puisse tirer les conséquences d'aller voir comment il a quitté de 3 maisons à 60 maisons. Ça s'est passé, comment qu'il explique. Il doit donc être convoqué, la personne ou l'animateur en question, comment tu te retrouves avec, pour qu'une décision puisse être de, n'est-ce pas, reverser le surplus de cet enrichissement sans cause, n'est-ce pas, au trésor public. Ça veut dire que l'État ne manque plus de maisons parce que toutes ces maisons ont été détournées par ces personnes. Donc voilà un peu, ça sera plus concret pour la République et pour les peuples congolais, que toutes ces déclarations-là soient suivies du réveil des administrations qui sont les administrations consommatrices et de ces déclarations-là, qui sont les DGI, donc les administrations fiscales, l'inspection générale des finances et la Cour des comptes. Voilà un peu brossé, parce que cela doit être non seulement le cas pour le gouverneur des provinces, pour le commandant des régions, c'est important, parce que regardez tous ces commandants qu'on a envoyés au front, qui se retrouvent à la guerre des M23-1, des commandants régionaux, des commandants de guerre qui se sont retrouvés avec 60 immeubles à Kinshasa, tout simplement, et c'est ça, c'était des rapports de service, qui ont constaté que les commandants qu'on a envoyés au front se retrouvent du coup du simple au triple, du simple au quadruple, et que sais-je encore. Donc, dire, il était parti avec une maison, et parce qu'on l'a envoyé au front, et c'est pourquoi ce front-là ne se termine pas, parce que ces gens qui sont envoyés, n'est-ce pas, sont dans les affaires, ils sont en train de construire, ils font ce qu'ils veulent. Donc, bref, cette déclaration-là doit concerner tous les grands animateurs, que ce soit non seulement ministériel, évidemment,
du Parlement, des administrations provinciales, des présidents des assemblées provinciales et également les gouverneurs et tous les autres responsables, et ça sera une manière plus efficace et plus orthodoxe et plus utile pour lutter contre le détournement et la corruption des dirigeants. Et c'est pourquoi, et je termine peut-être par là, c'est pourquoi aujourd'hui, comme l'a dit l'un des auditeurs, qu'au Congo et en Afrique, et pour la plupart des pays, la politique des pieds devient le premier domaine le plus prisé par tout le monde, parce que c'est elle, par la corruption et le détournement, qui porte plus à enrichir les gens rapidement et facilement que toutes les affaires qui sont exercées dans tous les pays. Alors que dans tous les pays du monde, ce qui enrichit, ce sont les affaires. Au Congo, hélas, et lorsqu'on dit que ce qui enrichit, c'est la politique, ce n'est pas la politique, c'est la corruption et le détournement du pont.
Voilà, maintenant, Riffa, avant de poursuivre avec Ismaël qui nous appelle depuis Lubumbashi, je veux lire cette réaction sur la page Facebook et puis vous allez réagir. C'est Marie Polawa qui nous écrit depuis Kisangani, je pense bien. Bien qu'étant une obligation constitutionnelle, conformément au terme de l'article 99 de la Constitution de la RDC, cette pratique relève d'une parodie d'application en RDC. Dans les contextes où les gouvernants de la RDC ne disent pas la vérité et ils sont dans la praxis de la démagogie, la ruse et le camouflage doublé de l'absence de l'éthique et d'ontologie professionnelle des affaires publiques. Ainsi, ces enregistrements sont truqués d'avance par ces déclarants et par conséquent, ce que la Cour constitutionnelle est en train de faire est justement une peine perdue et une diversion politique pour la RDC. Alors, maître Riffin, réaction rapide par rapport à cela, parce que il y a d'une part cette obligation constitutionnelle pour les membres du gouvernement de déclarer leur patrimoine à l'entrée comme à la sortie. Voilà qu'aujourd'hui, il y a le Premier ministre sortant Jean-Michel Sama Lukonde qui s'est soumis à cet exercice constitutionnel. Et également, la Premier ministre entrante qui est maintenant aux affaires Judith Suminwa-Tuloka qui l'a fait. Mais lorsque on continue à avoir, n'est pas toujours faire confiance à nos dirigeants et encore moins à notre justice. Et vous pensez pas que ça devient très compliqué pour le Congolais de voir ce pays aller de l'avant, parce que dans toute chose qu'on fait, il y a le scepticisme dedans.
Le scepticisme, parce que la population ne peut plus faire confiance à des gens qui sont continuellement corrompus, détournés. Vous apprendrez qu'au Sénat, autant est parti, au ministère de l'Environnement, autant est parti, au ministère de Finances, autant est parti, au ministère de l'Agriculture, autant détourné, au ministère du Développement Rural, autant détourné, au ministère des Sports et Loisirs, autant détourné. C'est partout où on détourne des milliers. Et lorsque la population demande un peu de produits pharmaceutiques aux hôpitaux généraux, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Renforcer notre armée, il n'y a pas d'argent. L'autre armée, comme l'a dénoncé mon client Kofi Olomide, que non, on envoie des renforts sur des motos. On envoie des renforts sur des motos. C'est pas un scandale, ça. Et c'est la question, Kofi a raison. C'est-à-dire, il n'y a pas d'argent. Et pendant ce temps, et de tout, on est des millions et des millions d'argent. Ça veut dire, constater que je l'ai même fait dans toutes mes publications, qu'il y a 40 ans, dans notre pays, aucun premier ministre n'a mis en place une lutte contre la corruption, une politique de lutte contre la corruption et le détournement. Aucun. Ça fait 40 ans. Donc nous sommes là, c'est juste quelque chose, quelques petites déclarations, aucune politique. Aucune politique. Celui qui a tenté, essayer, c'est Luzon le Bambilé, ça, mais lui non plus, n'a pas eu l'état de terminer ce qu'il avait voulu commencer. Donc ça veut dire, nous n'avons jamais politique de lutte contre la corruption.
Mais maître Riffin, vous avez suivi un auditeur qui a proposé, au-delà de déclarer le patrimoine devant la Cour constitutionnelle, au greffe de la Cour constitutionnelle, il aurait été également souhaitable d'associer, je sais pas par quel mécanisme, mais l'agent de prévention et de lutte contre la corruption.
Non, mais ça, ce n'est pas robuste et efficace. Il faut un parquet financier. Il faut un parquet financier, ce parquet-là. Il faut donc des magistrats qui sortent de la compétence des magistrats des droits communs ici, que nous connaissons ici. La justice que nous connaissons ici est paralysée. Elle ne peut pas affronter la corruption. La justice telle qu'elle se présente là, elle ne peut pas affronter la corruption. Donc, c'est-à-dire, ce qu'on appelle, nous avions dit dans les émissions ici, rappelez-vous, on a neutralisé la sentinelle. Rappelez-vous, Marcel Ngomabala. Là, donc, neutraliser la sentinelle. Lorsque la sentinelle est neutralisée, et la sentinelle, c'est la justice. Donc, la corruption en RDC, vous vous rappelez de la déclaration d'un porte-parole du gouvernement qui avait dit que nous avions la Cour constitutionnelle en poche. Nous devons nous battre pour avoir la Cour constitutionnelle toujours en poche. Donc, ça veut dire, la sentinelle était neutralisée. Lorsqu'on neutralise la sentinelle de la porte ou des guérites, quel est le sort de ceux qui sont dedans? Donc, les politiciens ont eu l'insidieuse imagination de neutraliser avant toute chose la sentinelle. Donc, les politiciens ont la sentinelle en poche. Aucun magistrat ne peut, on l'a dénoncé combien de fois ici, ne peut prendre une initiative contre le premier ministre et l'arrêter. Il fallait que Matata Ponyo quitte. Et vous savez aujourd'hui comment on a de la peine.
Et vous pensez, si on met en place, comme vous le dites, un parquet financier, ça serait un parquet indépendant, totalement indépendant?
Ça doit être un parquet, parce que lorsqu'on le met en place, on le dote d'une loi robuste, donc des pouvoirs particuliers. Et de nouveaux magistrats, ça ne doit pas être des magistrats qui viennent de cet héritage ici. Il faut que ça soit vraiment des nouveaux magistrats. On peut peut-être y trouver quelques-uns, mais l'héritage est trop poré. Il faut vraiment que ça soit quelques-uns seulement qu'on peut trier. Il faut que ça soit des nouveaux magistrats avec un texte robuste pour que ces magistrats-là puissent contrôler la sentinelle, donc le contrôleur de la sentinelle. C'est-à-dire, vous contrôlez, comme on le disait dans une émission précédente, le contrôleur du surveillant. Donc, celui qui surveille est aussi contrôlé, est aussi surveillé. Donc, il faut donc une politique, nous l'avons déjà proposée dans nos publications, les contrôleurs du contrôleur. Donc, les surveillants du surveillant. Et c'est important, il faut donc une politique, et cette politique-là, vous devez veiller pour que les corrompus ne s'y retrouvent pas, parce que ça sera encore ce qu'on avait dit. Non, c'est ici le CELFA qui avale sa propre quai, et donc vous ne pouvez pas avancer lorsque vous avez avalé votre propre quai. Donc c'est important qu'une politique réelle, et nous allons voir si Mme Soumioua va y penser, et nous avons des idées, comme on les a déjà proposées dans cette émission ici, évidemment dans une émission on ne peut pas tout proposer, des idées pour que nous puissions redresser la tête par une politique, rappelez-vous, que Luzolo, dans ses enquêtes du ministère de la Justice à l'époque, avait constaté que sur le budget national, nous perdons 11 milliards chaque année, qui est détourné par les responsables politiques.
Voilà, il faut le reconnaître, c'est beaucoup d'argent. Maître Riffin, on va prendre le tout dernier auditeur, et puis on va vous donner l'occasion de conclure. Nous avons Ismaël qui nous appelle depuis Lubumbashi. Bonjour Ismaël.
Bonjour Marcel Mbalango Mokeba, bonjour à Maître Riffin Loukou.
On vous écoute Ismaël.
À mon humble avis, ce qui s'est passé pour la Première Ministre était une bonne chose. Mais malheureusement, ce n'est pas le premier cas dont nous voyons le premier ministre déclarer ce qu'il a. Mais au plus des solutions, moi je souhaiterais que Maître Riffin puisse aussi nous donner quelque chose. Au plus des solutions, nous voulons que le peuple, les politiques congolais ou les politiciens congolais aient une loi que tout celui qui détourne les biens de la République, que ce soit lui et toute sa famille, mais qu'on aille même jusqu'à quatrième génération, que cette personne ne puisse pas accéder à une fonction dans cette république. Si on vote cette loi, empêcherait des détourneurs pourvu qu'ils ne puissent pas continuer à détourner. Imaginez un peu, aujourd'hui, je pense que ce qu'on pouvait associer, on pouvait associer l'inspecteur de finances, UGF, dans tout ce qui est déclaré. Mais s'ils déclarent aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent déclarer tout ce dont ils détournent? C'est ça un grand problème. Le problème de la RDC du budget, tel que l'enquête de Luzolo Bambila, les 11 milliards qu'on a dit, c'est peu. Vous vous imaginez, si ce qui s'est passé ici, combien de politiciens ont détourné? Je pense que déclarer les biens, c'est une bonne chose, mais suivre ce dont ils ont déclaré, ce dont ils vont emmagasiner, c'est ça le grand problème. C'est pour cette raison, je cite aussi l'IGF, doit être associé à une première déclaration. Parce qu'à la sortie, ces gens vont aussi déclarer, nous présenter ce dont ils ont acquis et ce qu'ils avaient en avant. Mais si on va un peu évaluer, faire une enquête à suivi, ça permettrait à ce qu'il y ait un peu un changement. Parce qu'au début, ils déclarent. Mais à la fin du mandat, il n'y aura pas les suivis.
Voilà.
C'est là le problème.
Merci.
Comme nous avons une culture.
Merci Ismaël. C'est important pour vous qu'il y ait également un suivi de la déclaration du patrimoine à la fin du mandat de membre du gouvernement. Merci Ismaël depuis le Lubumbashi. Avec vous, on va conclure avec notre invité, Festine, qui est Elvis et qui est en ligne. On va rapidement prendre Elvis, même pour une minute. Elvis, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, vous avez juste une minute pour réagir, Elvis. On vous écoute.
Oui, monsieur, c'est exactement ce que l'invité vient de dire. Ce qui est un problème, quoi. Tout ce qu'ils peuvent noter, comme les ordonnances, tout ce qui s'est fait, les suivis, comme l'invité est en train d'insister. Si les gars, ceux qui sont comme les surveillants, les magistrats, tous ces gens ne sont pas politisés, c'est-à-dire la nomenclature de tous ces gens, si on les libère des oppressions de la politique, peut-être ils pourront faire un bon travail. Même si nous pouvons parler du matin au soir, et alors que dans tous les niveaux, par exemple au niveau du positionnel, il y a les quotas politiques, il y a les quotas du service civil, il y a les cas majoritaires, les cas opposition. Si au point où on va délibérer tous ces gens, que ces gens soient nommés peut-être d'une façon indépendamment de leurs compétences, vous allez vous rendre compte même des gens qui ne sont même pas, qui ne peuvent même pas occuper les postes, parce qu'il est un poste de tel, il occupe ce poste-là. Alors, pour suivre, je voulais juste pour ceci, peut-être la personne a été nommé après qu'il soit nommé, on vient de changer, il est parti. Qui sera responsable de s'occuper de celui? Parce que nous voyons ici chez nous comment. Quand quelqu'un n'est plus ministre, il cherche d'abord le droit de sortir. Dès qu'il sort de l'étranger, on n'a plus le droit de mettre la main sur lui. Il doit rester là-bas.
Merci Elvis. Comme je le dis, on a plus assez de temps. Merci d'avoir réagi dans ce magazine Pas Auditeurs. On revient à notre invité, Maître Ruffin Louko. On va conclure avec vous, Maître Ruffin Louko. Il faudra, comme tout le monde l'a dit, que cette déclaration du patrimoine pour les membres du gouvernement en l'entrée comme à la sortie ne soit plus une formalité.
Donc cette agitation folklorique de ces déclarations-là, sans ici, sans suivi, doivent s'arrêter. L'avant-dernier auditeur demande que l'invité doit nous donner quelque chose. Mais j'ai de la peine à atteindre la ministre de la Justice sortante. J'avais des projets de loi pour lutter efficacement après mon expérience d'une vingtaine d'années dans la justice. Environ une trentaine maintenant. J'avais des projets de loi pour lui soumettre comment lutter contre la corruption, d'abord dans la justice. Donc, c'est-à-dire, redresser les surveillants. Les surveillants qui ont été mis en poche, neutralisés par les politiques. Comment lutter contre la corruption dans la justice? Et ces projets de loi, je les ai encore. J'espère que l'actuel ministre me donnera l'occasion de lui présenter, de les défendre pour qu'il aille les soumettre au Conseil des ministres et ensuite au Parlement. Donc, c'est important qu'il y ait des instruments nouveaux, des instruments, comme vous dites, des armes nouvelles. Il y a la criminalité de la corruption, de la détournement s'est perfectionnée. La plupart des détournés, des corrupteurs ne reçoivent plus l'argent en espèces. C'est l'argent qui passe d'une banque à une autre jusqu'à un paradis fiscal. Vous n'aurez aucune trace. Il faut donc que nos magistrats, notre imagination pour combattre ce qui devient mystique, que nous soyons également mystiques.
Voilà. Merci beaucoup, Maître Ruffin. Voilà. On va s'arrêter par là. Merci beaucoup, Maître Ruffin Louko. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matiti, doyen de l'ordre des avocats de l'Ituri, chercheur à l'université de Kinshasa et auteur de plusieurs publications en droit congolais. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver prochainement. Et voilà, fin de ce numéro de Parole aux auditeurs de ces jours. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Julie Feza, Bongunda et à Blaise Chindani qui ont été à la réalisation, à la coordination de ce magazine. Et merci à, je pense, à la voix dit à Billy Landry Betou qui est à la mise en ordre. À la présentation, c'était Marcel Gomoba. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro de Parole aux auditeurs d'ici là. Bon, suite de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.